Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Il est devenu un sujet d'actualité, une nécessité, un élément incontournable. Vous avez sûrement entendu parler des ODD, Objectifs de Développement Durable. D'ailleurs, 193 pays se sont fixés d'atteindre 17 objectifs d'ici 2030. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est sur cette dynamique à la fois environnementale et économique. Notion qui définit le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Quel impact géopolitique, stratégique, économique et même social le développement durable a sur notre quotidien et sur l'évolution du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
Après les inondations dévastatrices qui ont frappé le sud-est du Maroc, l'architecture émerge comme un pilier essentiel dans la réponse aux catastrophes naturelles. En intégrant des concepts de résilience et de durabilité, l'architecture peut-elle offrir des solutions innovantes pour minimiser les impacts futurs et protéger les communautés? À travers une conception réfléchie et des techniques adaptées, peut-on transformer les vulnérabilités en force, contribuant ainsi à bâtir des environnements plus sûrs et plus résilients face aux défis climatiques croissants? Pour en parler, mesdames et messieurs, toujours dans votre émission Durabilité pour la deuxième saison et par rapport au second numéro, nous sommes bien évidemment avec Karim Rouissi, architecte associé à l'agence H+E Architecture à Casablanca et doctorant à l'Université Paris-Nanterre, rattaché au Centre de Recherche sur l'Habitat à l'ENSA Paris. Bienvenue et merci de répondre à notre invitation.
Merci pour l'invitation.
Alors, sans plus tarder, Monsieur Rouissi, comment l'architecture peut-elle s'inspirer pour renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles telles que les inondations et les tremblements de terre, inondations d'ailleurs comme vécues récemment malheureusement par le Royaume du Maroc?
L'architecture peut d'abord en fait se référer au passé. Nous avons un passé riche, une culture constructive très, très prégnante dans notre pays. Et donc en fait l'architecture vernaculaire qui est là, qui en fait transmise de génération à génération, a pu bénéficier de tout le recul nécessaire pour la compréhension du territoire, pour la compréhension des changements climatiques, pour la compréhension des différentes catastrophes qui peuvent atteindre l'habitat. Et donc, en fait, cette architecture vernaculaire, il ne faut pas s'en inspirer au point de la mimer, de la reproduire telle qu'elle, mais en fait, il faudrait la comprendre ses qualités, comprendre sa richesse, essayer de transcender dans un esprit de modernité. Donc, en fait, le passé peut être ce lien qui permet à l'architecture, à l'urbanisme et à l'aménagement de territoire de transcender, en fait, l'architecture et l'héritage architectural vers une modernité heureuse.
Et dans cette optique aujourd'hui, quel type d'ailleurs de matériaux et de techniques de construction durable peuvent être adoptés au Maroc pour atténuer les effets des catastrophes naturelles sur les bâtiments et les infrastructures?
Alors aujourd'hui, en fait, partout dans le monde, surtout dans le monde occidental, il y a un engouement vers les matériaux naturels. Quand je parle de matériaux naturels, c'est la terre, la pierre, mais ça peut aussi être sous différentes formes, de la pierre en forme de gabion, de la pierre sèche, mais aussi du pisé, etc., etc. Donc en fait, il y a beaucoup de matériaux qui sont naturels et qui ont le mérite de pouvoir s'adapter, de pouvoir être résilient, de pouvoir être efficace contre ces catastrophes naturelles. Et ces matériaux, en fait, il suffit juste de les comprendre et de les mettre en fait dans un esprit nouveau et pour qu'on puisse construire de l'architecture contemporaine tout en respectant l'environnement. Mais il y a aussi, au-delà du matériau, il y a la question des techniques. Alors il y a toute une partie de l'architecture qui s'appelle l'architecture bioclimatique. D'accord. Qui consiste à, en fait, adapter en fait des techniques qui sont plutôt des techniques low cost, parce qu'en fait dans nos pays on va pas aller chercher du high tech, on va pas aller chercher des solutions technologiques pour s'adapter à l'environnement, mais plutôt des solutions qui sont passives, qui vont travailler sur la ventilation, sur la protection solaire, etc. Et là aussi encore, l'architecture locale est un riche enseignement. Donc matériaux et techniques peuvent permettre justement d'être efficaces par rapport à ces catastrophes naturelles et par rapport à l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui.
Et dans cette même dynamique, comment donc les architectes marocains, pour donc de manière très particulière, peuvent-ils concevoir des bâtiments multifonctionnels capables, comme vous le dites, de résister également aux catastrophes naturelles tout en répondant aux besoins quotidiens de communautés locales ?
C'est déjà le cas. Donc en fait, on assiste aujourd'hui à beaucoup d'architectes, de confrères et de consoeurs qui sont à jour par rapport à ces techniques et qui vont les utiliser dans leurs projets. Maintenant, on est au début de cette prise de conscience dans notre pays. Il faut aussi que la formation s'adapte. Il faut que les écoles d'architecture marocaines puissent transmettre aux architectes en fait tous ces savoir-faire et ces savoirs liés aux matériaux locaux. Et puis, en fait, il faut aussi que la profession, dans sa globalité, prenne en considération ces éléments-là. Mais il faut aussi que par les politiques publiques, qu'on puisse donner des incitations, des aides, permettre de mettre en fait tout un écosystème qui permettrait en fait aux architectes de construire d'une manière durable et efficace.
Et quels sont aussi les défis principaux auxquels fait face l'architecture marocaine dans la mise en place de solutions résilientes aux catastrophes naturelles et comment peuvent-ils être surmontés ?
Alors les défis sont nombreux. D'abord, il y a la question de la réglementation. En fait, il faut légiférer. Malheureusement, en fait, on est dans un pays où on a énormément d'architecture construite avec des matériaux. Mais malheureusement, on ne peut pas les reproduire aujourd'hui parce que la réglementation n'est pas à jour. Donc il faut de la réglementation, il faut la formation, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un pilier très important, mais il faut aussi que ces matériaux puissent intégrer le circuit de consommation normal. Aujourd'hui, en fait, quand on veut acheter des matériaux de construction, ben, en fait, on trouve que les matériaux dits conventionnels, donc en fait les fers, les bétons, etc., mais on ne va pas trouver de matériaux alternatifs disponibles à la vente. Et du coup, en fait, tester auparavant et on saurait l'origine, etc., et la qualité intrinsèque. Donc il y a aussi ça, donc il y a la réglementation, la formation et puis travailler sur les matériaux pour qu'ils soient disponibles et qu'ils soient et puis en fait il y a aussi le rôle de l'État. Donc en fait l'État doit avoir un rôle d'exemplarité et il faudrait que au moins dans les villages, dans le monde rural, etc., que les bâtiments publics soient construits en matériaux locaux, soient construits pour répondre justement à ces contraintes et à ces attentes. Je crois que si on a cette image véhiculée de modernité par l'État, les citoyens suivront, et en fait on aurait certainement à gagner quelque chose. Aujourd'hui, en fait, dans les pays occidentaux, ces techniques constructives, ces matériaux, ces modes opératoires deviennent de plus en plus en vogue, et ça serait dommage que nous, pays du Sud, qui ont ces matériaux dans leur culture et dans leur esprit, qu'on soit en retard par rapport à ce train de développement.
Je voulais dire également aujourd'hui comment l'architecture peut-elle donc contribuer à la prévention des inondations dans les zones côtières marocaines, parce qu'aujourd'hui c'est l'un des principaux problèmes, particulièrement vulnérables à l'érosion et à la montée du niveau de la mer.
Alors c'est plutôt par l'urbanisme, par l'aménagement du territoire qu'on arrive à remédier à tout ça. Alors comment ? D'abord en fait en rendant les sols qui sont aujourd'hui partout artificiels, donc en fait en revenant vers des sols naturels capables d'absorber donc en fait et de drainer en fait les eaux, mais aussi par des mesures préventives. Par exemple, on peut aménager le long des littoraux des espaces récréatifs, des parcs, des espaces de jeu, etc., qui sont en terre naturelle et qui peuvent absorber en fait les montées des eaux. On peut aussi imaginer des sortes d'espaces de rétention d'eau quand il y a des montées des eaux, etc. Par exemple, aménager des skateparks ou des sortes de cavités qui sont capables d'absorber le surplus des eaux, la remontée des eaux au moment des catastrophes. Donc, en fait, par l'aménagement du territoire et par l'urbanisme, on peut rendre le territoire résilient et capable d'absorber et de réagir d'une manière efficace à ces moments de crise qui vont malheureusement se répéter de plus en plus dans les années à venir.
Et par quels moyens aujourd'hui donc ces technologies modernes telles que la modélisation plutôt des risques climatiques peuvent également être intégrées dans la conception architecturale pour améliorer la résistance des bâtiments aux catastrophes naturelles, notamment dans le Royaume du Maroc?
Ben aujourd'hui, en fait, par des logiciels qui sont capables de réfléchir sur les risques multiples qui peuvent toucher au territoire, on peut modéliser des scénarios, on peut anticiper des catastrophes et on peut adapter le territoire et le bâtiment à réagir à ces catastrophes. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de logiciels et d'intelligence artificielle qui sont capables d'accompagner l'humain. Donc en fait, il faut d'abord avoir cette vision humaine, comme j'ai dit tout à l'heure, low-tech, parce qu'en fait, il faut être capable de répondre sans trop de technologie sur le territoire. Mais la technologie peut être, par contre, utilisée pour la réflexion, pour la conception, pour la simulation et pour, en fait, prendre les risques en amont et pour construire des territoires résilients.
Et sur ce, Karim Rouissi, également, beaucoup de nos compatriotes également ont cette envie aujourd'hui de pouvoir bénéficier de ces maisons durables. Mais parfois, comme on le dit, le panier de la ménagère est un souci qui empêche beaucoup d'avoir ces moyens de se permettre cela. Y a-t-il aujourd'hui des solutions beaucoup plus à même de permettre à ces personnes aux revenus moyens de pouvoir bénéficier quand même et faire face à ce fléau grâce à l'architecture ?
D'où mon insistance sur le low-tech, sur les produits en fait alternatifs qui ne demandent pas beaucoup de technologie et qui dépendent uniquement du matériau qui est disponible à même le sol. Donc en fait, avec ces matériaux locaux, en introduisant des matériaux moins consommateurs d'énergie disponibles, etc., on peut effectivement baisser le coût de la construction. Maintenant, il faut aussi que la technologie puisse accompagner cela, et il faut surtout que ces matériaux puissent intégrer un circuit de distribution. Il faudrait créer en fait une sorte d'industrie nouvelle, donc un écosystème avec des industries, mais en fait c'est des industries qui peuvent pas distribuer sur l'ensemble des territoires, mais qui doivent être intégrées partout dans les centres ruraux, etc., pour distribuer localement des matériaux, pour distribuer des briques, pour distribuer des toitures, pour distribuer des matériaux qui permettraient en fait de rendre la construction en matériaux classiques, locaux, aussi simple et modulable que l'est la construction par le béton armé, par exemple, où on va trouver en fait un système de distribution très important partout sur le territoire national.
Aussi modulable, aussi simple, aussi durable également grâce à l'architecture face aujourd'hui aux défis du changement climatique et aussi aux fléaux, comme malheureusement on l'a vécu récemment le Royaume du Maroc à travers le sud-est de ce royaume. Encore une fois, merci à vous Karim Rouissi. Je rappelle donc que vous êtes architecte associé à l'agence H+E, architecture également à Casablanca et doctorant à l'Université Paris-Nanterre, rattaché au Centre de recherche sur l'habitat à l'ENSA Paris.
Merci à vous.
Merci également à vous, chers amis auditeurs, pour la durabilité de votre confiance. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro, toujours dans le cadre de la durabilité.